L'émission jazz d'Aligre FM.
Et oui, chers auditrices et auditeurs, tous les samedis à 17h, comme elle vient de le dire la dame, d'ailleurs on en profite pour remercier Madeleine et Salomon qui ont signé ce jingle, et bien tous les samedis à 17h, on est ravis de vous retrouver. Et on est particulièrement ravis aujourd'hui de vous retrouver parce que c'est une émission où on va recevoir deux artistes. Alors vous me direz, les musiciens sont forcément des artistes, mais moi je dis artiste dans le sens plasticien, parce que je trouve que les deux artistes qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui, ce sont un peu des architectes de la forme musicale. Ils ont une sorte de façon, sont deux instrumentistes, l'une est violoncelliste, et je vais lui laisser dire son nom tout à l'heure, et l'autre est saxophoniste, vous venez d'entendre un titre, mais ils ont tous les deux, un peu comme des plasticiens, une façon de mettre leur musique en espace. Et cet espace, vous allez l'entendre, parce que là, on peut dire que c'est des mots, c'est du blabla, etc., mais vous venez déjà de l'entendre au travers du premier titre de notre premier invité. Vous allez voir que c'est effectivement cette notion d'art, de mise en espace et de travail de la forme qui nous a beaucoup intéressé sur le travail de... Alors, la violoncelliste, elle est en face de moi, je vais lui laisser dire son nom.
Adèle Viret.
D'Adèle Viret, qui nous vient pour la sortie de l'album Close to the Water. Et le saxophoniste, il est à ma gauche.
Moussina et Bobissé.
Pour la sortie de l'album Abstract Narrative. Alors avant de parler de ces histoires de forme, de mise en espace, etc. Déjà, vous vous connaissiez? Vous vous connaissez de nom, mais est-ce que vous avez déjà joué ensemble?
Non, jamais.
Non, pas encore.
On se connaît de vue. Ouais. De loin. Ouais,
ouais. Parce que dans l'album d'Adèle, il n'y a pas de saxophoniste. Il y a un trompettiste, mais il n'y a pas de saxophoniste. Et dans l'album de Lucina, il n'y a pas de violoncelliste. Peut-être une idée. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque là, on parle de vous êtes des compositeurs, et je dis vous êtes vraiment des créateurs et des artistes. Est-ce que vous avez, je pose la question à tous les deux, est-ce que si on vous dit demain... Viens avec nous, on va aller se faire une session où on va faire des standards. Est-ce que vous avez toujours le goût de jouer des standards, par exemple? Ou est-ce que ça vous ennuierait aujourd'hui de le faire?
Vas-y.
Alors, si on me dit, viens demain faire une session avec Moussina, je serais ravie de le rencontrer musicalement. J'ai en fait un peu découvert sa musique ce matin dans le train, en sachant que je venais ici. J'ai pris le temps d'écouter l'album et j'ai trouvé ça super chouette. Sur le côté rapport au standard, c'est un peu particulier. Joue d'un instrument...
Oui, parce que vous êtes violoncelliste, c'est une formation classique. Oui, mais alors on va pas se mentir, vous avez quand même beaucoup écouté de jazz.
Oui, mais je dirais pas que j'ai développé un rapport au standard. C'est pas quelque chose que j'ai pratiqué énormément. C'est assez particulier, c'est-à-dire que j'en ai beaucoup entendu et j'ai grandi dans un milieu où il y en avait beaucoup de joués. Du coup, en fait, j'en ai beaucoup appris un peu malgré moi et je suis toujours un peu surprise du nombre de thèmes que je peux connaître sans avoir ouvert la partition juste parce que je les ai entendus. Mais c'est pas quelque chose... Enfin, je me suis formée un peu complètement différemment. J'ai pas du tout fait d'école de jazz du tout. Et voilà. Du coup, je pourrais venir et faire les quelques standards que je connais, mais...
Et vous, Moussina, c'est l'école des standards. Vous êtes passé par là, à Strasbourg, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous en jouez encore?
Ouais, alors j'en joue toujours beaucoup, en fait. Je les travaille presque tous les jours.
Travaillez, votre base de travail, c'est les standards?
Ouais. J'ai une relation assez paradoxale à ça, parce que je pense un peu comme Adèle, j'en ai beaucoup écouté, j'ai vraiment grandi avec cette musique, avec le jazz et la musique noire américaine en général. Et donc je l'ai beaucoup écouté pendant 10 ans avant même de commencer à l'étudier, parce que j'ai commencé à l'étudier relativement tard par rapport à mon exposition première, on va dire. Mais j'étais pas spécialement doué là-dedans non plus, en termes de culture de jeu, j'entends. Et en fait, je viens d'une école à Strasbourg où j'ai beaucoup plus appris à jouer free et à faire de l'improvisation libre. Culture qui a été poursuivie par la scène berlinoise, qui est quand même moins standard, je dirais, que la culture parisienne. Et j'y suis revenu ensuite, à la fin de la vingtaine, vers les standards. Donc en fait, j'ai une relation un peu sinusoïdale en standard, mais là, depuis 5 ou 6 ans, j'y retourne parce que c'est une base de travail qui est...
Mais on va revenir sur, bien sûr, sur votre parcours, parce que vous venez de Strasbourg, vous avez passé beaucoup de temps à Berlin, vous êtes revenu ensuite sur Paris, revenu en France, puis installé sur Paris. Mais on va en parler tout à l'heure de la trajectoire berlinoise, parce qu'il me semble quand même que dans votre façon de composer, il y a des choses qui doivent vous venir de la scène berlinoise. Mais juste avant de commencer, donc on a entendu un premier titre, c'était Outsider, de l'album Abstract Narrative, qui sort sur le label Caisson. Ça fait très peu de temps après la sortie de Engram, c'est votre troisième album. Engram, c'était à peine il y a un an. Alors, qu'est-ce qui fait que vous sortez un nouvel album aujourd'hui? Est-ce que vous aviez envie de tourner la page d'Engram? Vous avez autre, ou d'autres, vous cherchiez d'autres horizons? Qu'est-ce que vous amenez à...
Non, en fait, je pense que c'est une question de timing. C'est que en fait, Engram est sorti relativement tard par rapport au moment des compositions. Parce que comme il y a eu le Covid entre les deux, il a été enregistré fin 2020 et est sorti en 2023, il y a un peu plus d'un an. Donc en fait, il y a eu un grand laps de temps et en fait, entre-temps, je n'ai pas arrêté de composer.
Et donc le matériel était tout proche, enfin tout prêt, tout chaud.
Voilà, c'est ça. Enfin, je me suis quand même laissé le temps de pouvoir le jouer un petit peu en live, d'expérimenter, de jeter des morceaux, d'en mettre d'autres. Donc ça bouge toujours un petit peu, mais il y a toujours un décalage, je pense, comme dans d'autres formes d'art, entre le moment où ça sort et puis le moment où on a bossé dessus, quoi.
Mais il y a autre chose quand même, parce que vous tournez quand même une page, parce que l'album Engram, c'était notamment avec une équipe berlinoise. Et là, vous tournez une page. D'ailleurs, avant de parler de tourner cette page, on peut déjà dire quels sont vos camarades de jeu sur cet album.
Oui, alors il y a Olga Melchenko au saxophone alto, qui était aussi sur mes deux albums précédents.
Oui, on va parler de votre complicité au niveau du son juste après, parce qu'effectivement, il y a une vraie complicité qui se...
Oui.
Et puis il y a de vos albums respectifs d'ailleurs.
Et puis il y a Simon Chivalon au piano, Étienne Renard à la contrebasse et Stéphane Atuar à la batterie.
Comment vous avez constitué ce casting?
Alors, comme tu l'avais dit, Engram, c'était un quintet avant. Quand je suis arrivé à Paris, je fais plein de sessions avec plein de gens différents. J'avais un peu envie de revenir à une formation que j'avais avant mon premier disque, vers 2015-2016, où là c'était que en quartet. Et donc, j'avais fait des expérimentations en quartet sans Olga, avec cette team-là. Et puis finalement, au dernier moment, j'ai voulu continuer avec le contrepoint et avec les deux voix. Et donc, j'ai fait « bon, je continue en quintet ». Voilà.
Je propose tout de suite qu'on écoute un deuxième titre. Mm-hmm. On va écouter « Esquisse ». Et on va revenir sur cette relation avec le saxophone alto et sur le contrepoint. Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland, Aligre FM 93.1, en compagnie de Mucina et Bobissé pour la sortie de l'album Abstract Narrative. Et là, on venait d'entendre Esquisse. Et là, on parlait tout à l'heure de la mise en espace. Je ne sais pas si Adèle, vous ressentez la même chose, c'est de la mise en espace. C'est parce que il y a la musique, mais il y a aussi tout ce qui se dit entre la musique, entre les notes. Et on se posait la question, d'ailleurs, Mucina, on pourrait presque imaginer un violoncelle, une ligne de violoncelle, non? Enfin, la question, Mucina, et
tout à fait. Adèle,
ouais, c'est sûr. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est pour moi genre de paysage où il peut apparaître plein de choses. Enfin, ouais. Je sais qu'avec le quartet, on aime aussi beaucoup ce genre d'atmosphère où il y a la couleur qui est là et puis on se laisse porter.
Quelque chose de spatial, c'est ça? C'est ouais. Mucina, est-ce que ça définit ce que vous voulez faire?
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, je pense que...
On parlait de vos expériences berlinoises. Il y a deux personnes que vous citez beaucoup et moi je l'entends. Dont je dirais si je me trompe ou pas, dans ce qu'on entend de votre musique, c'est Kurt Rosenwinkel et John Ollenbeck.
Mm-hmm. Ouais,
ce sont des gens qui vous ont marqué. Je sais qu'on en avait déjà parlé à l'occasion d'M-Grams sur cette antenne. Mais
ça reste pertinent. eux, j'ajouterais aussi Jim Black à ça. Toute ma phase berlinoise, c'est une phase que j'ai beaucoup écouté à la Snow Axis aussi. Oui, tout à fait. C'est Joel Ollenbeck, je l'ai eu pendant 2 ans en composition.
Ah, 2 ans, oui.
Ouais, et j'ai beaucoup.
Qu'est-ce qui vous a apporté, Joel Ollenbeck, que les autres ne vous apportent pas? S'il y a une vision particulière de la musique qui vous a marqué.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez John, c'est que après tout le monde est vachement différent. Moi, je pense qu'on cherche, des personnalités différentes en fonction du stade où on est, de l'instrument, de si c'est notre note dominante ou pas. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que John avait un rapport extrêmement rationnel à la musique. Il essayait pas de faire de magie ou de faire des trucs, mais au contraire, il me disait, il arrivait avec des petites fiches, il me disait qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait, on peut faire ci, on peut faire ça. Et il avait une manière de rationaliser la chose qui la rendait très lisible et qui rendait la possibilité de faire des exercices ou de clarifier le processus technique de composition, qui était très, très inspirante quelque part justement, parce qu'il n'y avait pas de froufrou, pas de...
Et d'ailleurs, je poserai la question à Adèle, mais je connais déjà la réponse s'agissant d'Adèle, mais Mucina, vous composez comment? Vous composez au piano ou...
Piano et saxophone. J'arrive pas à composer son instrument, je sais que beaucoup le font et que c'est un bon exercice. Moi, j'ai besoin d'entendre le son, d'y réfléchir. On parlait d'humeur tout à l'heure. Je pense que justement, jouer, ça me met dans un certain état d'esprit. Puis ensuite, je vais extraire des choses que...
Alors justement, puisqu'on parle d'état d'esprit, moi, j'ai vu dans le communiqué de presse que vous dites à un moment donné « Je suis partagé entre le sinueux, le complexe, l'étrange. » Et là, on a bien entendu les sinuosités, voire même les flottements voulus dans la musique. Vous dites, je retrouve là, des moments de repos, des espaces méditatifs. Je pense en termes d'humeur. Mais alors, moi, si je devais composer en termes d'humeur, ça changerait toutes les 2 minutes, moi.
Oui, mais je pense que c'est peut-être pas suffisamment précis. On va dire que c'est plutôt que j'essaye de mettre en scène ou de mettre en son la substance même d'une humeur. J'en prends une photo et puis je la développe. Si je fais un morceau méditatif de 10 minutes, ça ne signifie pas que mon humeur méditative durerait forcément que 10 minutes. Je pense que quand j'essaie de composer en essayant de retrouver le plaisir que je peux avoir à écouter certaines musiques en tant qu'auditeur, et donc j'essaie de du coup reproduire ça quand c'est moi qui écris, quoi.
Alors, vous-même, comme Adèle, on en reparlera tout à l'heure, vous avez aussi un sens du contrepoint. Vous avez trouvé votre partenaire à l'alto, en fait, qui vous suit dans vos albums, et d'ailleurs qui se retrouve aussi, parce que votre partenaire à l'alto, c'est Olga Milchenko. C'est parce que c'est un son particulier que vous cherchiez, une façon de jouer du contrepoint, parce que ça pourrait être une trompette, ça pourrait être un soprano, ça pourrait être, je sais pas. C'est, là, vous avez trouvé avec Olga Milchenko le son qui vous convient, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un... Ça remonte à loin, parce que ça fait quand même au moins 10 ans qu'on joue ensemble
dans des projets divers, pas seulement le mien, mais de, beaucoup d'expérimentations, de groupes éphémères à Paris, dans, à Berlin et à Paris, dans, de, dans des contextes assez différents, même des esthétiques assez différentes. Mais en fait, bizarrement, j'ai remarqué que c'était plutôt rare les quintettes avec deux saxes. Mmh. Que souvent, alors il y a évidemment les quintettes mythiques de sax trompette. Mais j'aime bien en fait que les deux timbres de deux instruments de la même famille se marient. Et ça marchait bien, ça marche bien dans ma musique. J'avais eu des prototypes de ce quintette-là avec des trompettes parfois, avec des guitares. Et j'ai juste bien aimé.
Ça veut dire que dans votre processus d'écriture, vous écrivez vraiment une partie pour ténor et une partie pour alto, en pensant particulièrement au jeu d'Olga Ameshenko.
Oui. Oui, alors c'est les deux. C'est-à-dire que je pense que ça marcherait avec tout le monde, techniquement, je dirais, pour exécuter ce qui est écrit. Mais en termes de timbre, je pense qu'on a un rapprochement qui je pense, enfin ouais, voilà, je l'ai déjà dit, parce qu'on travaille depuis longtemps ensemble. Mais ouais, ça se marie bien. Et c'est aussi pour ça que maintenant, au bout du troisième, je commence à avoir aussi un idéal de son presque collectif, si j'ose dire. Dès lors que je suis dans une composition où je compose avec deux voix. Ce qui, par exemple, n'était pas le cas dans Esquisse qu'on vient d'entendre, où là, c'est monodique, il n'y a qu'une seule mélodie. Donc ça dépend ensuite des compositions, mais... Ouais.
On rappelle le titre de l'album, Abstract Narrative, apparu sur le label Caisson. Parce que le temps passe très très vite, mais il faut annoncer le prochain concert. Et vous avez vu plusieurs dates, d'ailleurs. Vous avez trois dates annoncées.
Mm-hmm. Un tout petit peu plus, maintenant. Heureusement. Yes.
Alors, il y en a une, on peut dire, le 21 novembre au Sunside.
Tout à fait, 21 novembre au Sunside, concert de sortie d'album. On commence à 21h ou 21h30 pendant deux sets. Mmh. Voilà, il y en aura une en janvier à Jazz d'Or à Strasbourg.
Là, vous retournez sur vos terres.
Exactement, c'est ça.
Vous avez gardé des liens avec la scène jazz de Strasbourg?
J'essaye, ouais, un petit peu. Ah, c'était plus compliqué quand j'étais à Berlin, mais j'y retourne, j'y retourne de temps en temps, et puis voilà, quand c'est possible.
Il se passe de belles choses, effectivement.
Ouais, ouais, tout à fait.
Donc ça sera l'édition...
Ce sera en saison, je pense.
Mais c'est la programmation qui avait été faite par Philippe Hochem, c'est ça?
Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est Philippe qui... Ouais.
D'accord. Et puis après, au mois d'avril.
Et ensuite, alors il y aura une date au 38 Rives en mars à Paris.
Oui, vous avez un peu votre ronde serviette là-bas.
J'y joue de temps en temps, on va dire. et puis ensuite, également, au Jazz Club Saint-Denis en avril, le 7, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Ouais.
Ok. Messina, un grand merci. On va écouter un troisième titre, Pareidolia. C'est quoi?
C'est juste un mot. Alors, j'ai cru comprendre que ça pouvait être. Pour le coup, ça n'a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire derrière. Mais en gros, c'est quand on a l'impression qu'une forme représente quelque chose de figuratif.
D'accord.
Typiquement un visage dans un nuage ou un truc comme ça. Mais ça marche aussi avec le son.
On va essayer. Ça sera une question pour les auditeurs. Il faut que si vous trouvez l'humeur de Mussina sur ce morceau, appelez-nous, bien sûr, sur l'antenne d'Aligre FM. Il n'y a absolument rien à gagner. Mais on écoute pareil, Dalia. Thank you.
Et oui, vous êtes bien toujours sur AYFM Jazzland en compagnie de Mucina et Mubissé pour la sortie de l'album Abstract Narratif paru sur le label Caisson. Merci Mucina. Et donc je me tourne vers Adèle parce qu'on va vite passer à une autre atmosphère, une autre ambiance musicale qui donnera peut-être l'envie aussi à Mucina, pour le coup à l'inverse, de venir prendre le sax parce qu'il n'y a pas de sax. On va en parler parce que c'était votre formation, Adèle, était au départ un trio et vous l'avez fait évoluer vers un quartet. Je vous propose quelque chose, c'est qu'on écoute un premier titre et qu'on en parle juste après. Et je ne me souviens plus quel est le titre. Si, c'est Watchmaker, ce qu'on va passer en premier. Voilà, on y va.
Vous écoutez AYFM 93.1. Thank you.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Et oui, toujours sur Aligre FM 93.1 Jazzland en compagnie cette fois d'Adèle Viré pour la sortie de l'album Close to the Water sur le label Lézard Inouï. Et là, on venait d'entendre Watchmaker. Alors, Adèle, au départ, votre formation, c'était une formation, on va rappeler vos camarades de jeu, mais c'était pour un trio. Qui étaient les membres de ce trio au départ, pour lesquels vous aviez composé?
Alors, c'est plus complexe que ça. Ah, les membres du trio, c'était Wajdi Riaï au piano et Pierre Urti à la batterie. Mais en fait, les morceaux, je les ai composés bien avant. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que...
Avant d'avoir votre formation.
Le groupe. C'est plutôt que j'ai fait le groupe parce que j'avais un répertoire de morceaux et que je me suis dit, bon, maintenant, il est peut-être l'heure de sortir de ma cachette et de les jouer avec d'autres gens et de les jouer devant d'autres gens, ce qui me faisait un peu peur. Mais donc voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit. On a commencé des sessions en duo avec Wajdi et après en trio avec Pierre. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est chouette, mais j'ai l'impression qu'il me manque une voix pour trouver un peu plus de liberté et aussi plus de... C'était de la musique quand même pas mal écrite, avec différentes voix, justement, et à trois, il manquait quelque chose, quoi.
Alors, justement, d'ailleurs, le morceau qu'on a passé, on va en entendre deux autres, c'est un peu le contre-exemple de l'album, où là, c'est beaucoup plus basé sur la rythmique et où votre rôle, vous, au violoncelle, est beaucoup plus effacé. Là, bassless, c'est parce que votre rôle, vous, au violoncelle, vous permet de remplacer la basse, ou c'est un choix de timbre?
C'est un mélange de... En fait, j'ai eu cette expérience quelques temps avant de commencer le quartet dans un autre groupe où on m'a appelé pour remplacer un contrebassiste. Je suis arrivée, j'ai dit, mais moi, je suis pas contrebassiste. Mais c'était chouette, ils m'ont fait confiance et en fait, j'ai pu un peu creuser ce truc-là avec eux et ça m'a plu. J'ai eu envie de continuer à aller dans ce sens-là et aller dans cette recherche-là. Et je trouvais que c'était... C'est-à-dire que, en fait, le violoncelle est un instrument un peu... C'est pas complexe, mais c'est-à-dire que c'est très lyrique, mais du coup, on est assez, en termes de virtuosité, il y a une sorte de limitation où c'est pas que je peux aller faire des... En tout cas, à mon niveau technique actuel, il y a sûrement des gens qui le font super, mais c'est pas que je peux aller chercher des solos super longs avec des phrasés qui développent. Et du coup, j'avais besoin de trouver un peu quelle pouvait être ma place et... Dans ce genre de musique et je l'ai cherché comme ça en essayant de trouver une alternance entre des thèmes que je pouvais jouer à l'archet et d'autres moments où j'allais du coup trouver une place plus dans le côté de la rythmique.
Alors on va entendre deux morceaux qui sont beaucoup plus chambristes, est-ce que ça vous va comme définition? Parce que en fait vous venez vous d'une formation qui est beaucoup plus classique, donc vous restez dans cette ligne d'un jazz de chambre, c'est ça que vous défendez?
Ça me va tout à fait. Il y a pas beaucoup de personnes qui emploient ce terme-là. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu comme ça que j'ai pensé cette musique, même inconsciemment, parce que au final, voilà, j'ai suivi tout un... Enfin, je suis encore... je finis mes études là, de violoncelle classique, en parallèle de tout ce qui s'est passé.
Ah, vous continuez cette formation classique?
Ouais.
C'est-à-dire qu'on risque de vous voir dans des formations
Enfin, cela dit, il y a un quatuor à cordes qui se commence en ce moment, avec notamment Maëlle Desbrosses, et deux violonistes plus du très classique. On a dans l'idée d'un peu... aller dans des croisements.
Justement, Maëlle Desbrosses, parce qu'elle faisait aussi partie la constellation Jazz Migration, notamment avec Hélène Duré. On a entendu quelque chose de très rythmique. Je propose qu'on entende quelque chose qui est, je trouve, plus révélateur de la couleur de l'album et de la composition, où on vous entend plus. Je propose qu'on écoute Horizon.
Thank you.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oui, vous êtes bien sûr Jazzland, Allegre FM 93.1 en compagnie d'Adèle Viré pour la sortie de l'album Close to the Water paru sur le label Les Arts Inouïs. Alors, Adèle, vous venez d'une formation classique. Comment on fait cet équilibre entre l'écriture et l'improvisation? Parce que dans votre formation classique, on est plutôt sur l'écriture.
Oui, complètement. C'est difficile à dire, enfin, parce que donc, j'ai cette formation classique, en même temps, comme je disais, j'ai grandi quand même dans un milieu où l'improvisation avait beaucoup de place. Et,
oui, on peut le dire, vous êtes la fille de Jean-Philippe Viré, et d'ailleurs vous jouez en famille aussi, on
ouais,
en parlera
peut-être
tout à l'heure, un triomphe Viré. Voilà.
Et oui, en fait, ces morceaux-là, donc, je les ai écrits au piano, et en fait, je pense qu'il y a toute une histoire où avant ce groupe-là, j'ai très peu joué dans des projets de jazz. Et donc, l'esprit un peu du lead sheet qu'on amène aux musiciens, je connaissais pas. Enfin, je savais que ça se passait comme ça, mais j'avais vachement du mal à le concevoir. Et du coup, je me suis sentie obligée d'écrire beaucoup d'informations. Et en même temps, ça a permis de faire cette musique-là. Je regrette pas du tout. Mais par exemple, pour Wajdi, qui lui est vachement plus dans un milieu jazz, au début, ça l'a un peu surpris. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à devoir lire beaucoup de trucs.
Mais quand vous dites je donne beaucoup d'indications, vous avez la partie écrite, puis sur la partie de l'improvisation, vous indiquez dans quelle direction doit aller
l'impro? Non, c'est juste dans la manière de concevoir les thèmes et la manière dont les jouer. J'avais quand même une certaine idée. Et par exemple, pour le piano, j'allais beaucoup écrire aussi les accords ou ce genre de choses, quoi.
Alors là, j'ai lu quelque part que sur le morceau qu'on a entendu, vous jouez du violoncelle avec une sourdine métallique.
Oui.
C'est quoi ça?
En fait,
vous avez déjà entendu ça,
Lucina? Je suis curieux d'entendre.
C'est les sourdines qu'on utilise pour jouer. On appelle ça un peu les sourdines d'appartement ou sourdines d'hôtel, c'est quand on veut jouer pour sans déranger les voisins, parce que du coup ça étouffe beaucoup le son. C'est pas en général il y a les.
Oui, mais là vous êtes en studio, vous avez pas vous en fichez les voisins.
Oui, mais c'est parce que je trouve qu'il y a un timbre assez particulier.
Voilà, ça donne un timbre
différent. En fait, j'avais enregistré une musique de film un peu avant, écrite par Fabrizio Cassol, et c'est lui qui m'avait dit: ah, mais tu veux pas, t'aurais pas, tu sais, les sourdines, les grosses sourdines en métal, là, pour ce passage-là. Je l'avais un peu regardé en mode, mais pourquoi il me parle de ça? Et en fait, j'en avais récupéré une, et j'avais essayé, et j'avais trouvé ça super, super particulier, et je me suis dit, mais c'est dommage qu'on n'utilise pas ce son, en fait, plus souvent pour certaines choses. Et du coup, là, dans le début de ce morceau assez choral, j'avais envie de quelque chose d'un peu moins concret, et cette sourdine aidait à prendre un peu cette direction-là.
Alors, tout à l'heure, avec Messina, on parlait d'humeur. Est-ce que ça vous gêne si on parle de poésie dans votre
oui,
musique? Ça vous inspire? C'est quelque chose qui... Est-ce que vous pensez poétiquement la musique ou
Oui, enfin... De toute façon, il y a toujours des... Peut-être, je ne sais pas si poésie, c'est le terme direct, mais en tout cas, l'imaginaire de la rêverie.
Et de la rêverie, c'est ça.
Et de,
ouais.
Voilà, se laisser porter un peu
onirique.
Dans l'espace. Voilà.
C'est ça qui vous inspire. Le, je disais aussi que le jazz, c'est aussi une... Enfin, la musique aussi une affaire de famille chez vous, puisque, on peut le dire, vous êtes la fille de Jean-Philippe Viré, le contrebassiste, et vous jouez avec votre frère, vous avez un trio, le Trium Viré, c'est ça?
Oui.
Donc, quand vous jouez avec votre frère Oscar Viré, là, dans votre formation, il y a une entente un peu télépathique ou
complètement télépathique. C'est pour ça que...
Vous avez la même approche, la même compréhension de la musique. Ça s'entend, d'ailleurs.
Ouais.
Alors, il faut rappeler que vos dates de concert, vous pouvez peut-être nous les dire, parce que comme le temps file, on ne va pas l'oublier.
Alors, le 6 novembre à Jouan-les-Pins, le 12 à Jazz à l'Ouest à Rennes, le 22 à Bruges au Easy Jazz Club, le 26 au Sunside à Paris, le 28 au Bimeux d'Amsterdam, le 29 à la Jazz Station à Bruxelles, le 30 à l'Anvers à Liège, et puis Le 4 à Tourcoing, pour Tourcoing Jazz Club, le 5 à Valenciennes. J'espère, à chaque fois je les mélange les deux, c'est peut-être l'inverse. C'est une catastrophe, mais... j'arrive. Bref, et le 7 au Théâtre de Caen.
Mais alors là, mesdames et messieurs les auditrices et auditeurs, autant on peut comprendre qu'effectivement Adèle joue sans partition, mais là elle vient de citer toutes les dates de concert sans une seule note. Bravo. Alors là,
ouais, c'est vraiment... J'ai un peu vraiment... mon agenda dans la tête.
c'est vraiment exceptionnel. Donc là au Sunset, on entend la formation au grand complet, il n'y aura pas de guest. Vous n'avez pas besoin d'un saxophone ténor.
Ah, ça pourrait.
Ah, oui.
Je vais y réfléchir.
Très bien. Bah, merci. Merci beaucoup, Adèle. On est vraiment conquis. Oui, une petite question quand même. Alors, il faut quand même dire que vous multipliez les prix. Partout où vous passez, vous remportez les prix. Vous avez remporté l'Europa Jazz Radio à Marciac cet été. Vous avez été lauréate de Jazz Migration. Donc, à chaque fois, je crois que le public et les jurys sont absolument conquis. Donc là, on a une formation qui est inscrite dans le temps. Mais j'imagine que vous avez beaucoup de sollicitations depuis
Là, on était suivi par Jazz Migration, donc c'est sûr que ça a aidé aussi à faire rayonner le projet. Après, j'espère que ça va se développer.
Vous avez aussi une formation, vous participez à une formation qui est un peu trans-européenne, c'est ça?
Oui, Mosaïque. C'est un autre groupe que je conduis un peu, même si c'est plus... Les compositions sont complètement collectives. C'est on part de rien et on compose tous ensemble collectivement.
À la table.
Par oralité.
Ah, d'accord.
On compose tout par oralité. On a une heure et demie de répertoire tout oral. C'est vraiment, ça fait partie d'une expérience assez dingue à laquelle j'ai participé.
Expliquez-nous ce que je ne comprends pas. Composer par oralité, je n'ai pas compris.
Donc, en fait, c'est avec un musicien qui est bulgare, qui joue du kaval, une flûte traditionnelle bulgare, un percussionniste tunisien, deux portugais qui jouent batterie et contrebasse, Noé Claire qui est accordéoniste parisien. Et on a tous participé à ce programme qui s'appelle Médinéa, qui rassemble des artistes issus des pays autour de la Méditerranée, dans l'idée de créer un répertoire interculturel où les artistes échangent sur leurs différentes traditions orales, plutôt. Et donc, c'est suite à cette expérience-là que j'ai voulu monter un projet qui pourrait s'étendre dans le temps. Et j'ai créé Mosaïque. Et du coup, voilà, on a passé en tout, on a dû faire plus d'un mois de résidence mise à la suite. Et chacun propose une idée et tout le monde est libre de travailler cette idée, de proposer une seconde voix, une basse, une rythmique, et voilà.
Et on a des chances de l'entendre bientôt ?
Oui, il y a un album qui devrait sortir l'année prochaine. En fait, j'ai enregistré celui du quartet et celui du Mosaïque à une semaine de différence. Mais donc voilà, maintenant, on étale un peu ce qui va se passer. Mais
vous voyez, juste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce que je vais dire, mais avec mon confrère et ami Lionel Eskenazi, qui anime l'émission en alternance tous les samedis, on a réfléchi à un nom et on a pensé à Jazzland, parce que pour nous, le jazz n'a pas de frontières. Et bien, vous en êtes la démonstration, et on est tout à fait curieux d'entendre ça. Merci beaucoup Adèle. Donc on rappelle votre date le 26 novembre au Sunside pour les Parisiens, et au Sunside juste 5 jours avant vous aurez Mussina le 21 novembre qui aura bien chauffé la salle, toujours au Sunside. Donc on rappelle le titre pour Adèle, Viré, Close to the Water, paru sur le label des Arts Inouïs, et pour Mussina, on n'a pas eu le temps de parler du label mais bon c'est pas grave, Abstract Narrative sur le label Caisson. La semaine prochaine, vous retrouverez Lionel Eskenazi, qui va recevoir deux superbes saxophonistes, ça va dépoter, Baptiste Herbin et Pierrick Pedron, qui présentent tous les deux leur nouvel album, magnifique album, à suivre Lusitania, et nous on se retrouve dans 15 jours. On se quitte avec les cloches. Je voulais passer novembre, mais il est un petit peu... forcément, hein, c'était de saison, mais il est un petit peu trop long. Donc, on va passer les cloches. Écoutez, merci à vous. Nous, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.